Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Une chronique du Pays Toulousain qui, cette fois-ci, en compagnie de Michel de Rivoire et bien sûr, évidemment, d'Aline Thomazin.
Bien sûr.
Va nous ramener sur la 28e et dernière émission, épisode de cette collection Demeures et Familles. Après avoir passé quelques émissions, nous nous sommes dissipés sur d'autres périodes ou d'autres sujets. Alors, Demeures et Familles, peut-être un petit rappel sur la dernière famille que nous avions vue. Et puis après, on va essayer de tirer une sorte de,
alors,
de conclusion.
Nous ne sommes pas à la 28e. Nous sommes à la conclusion. Sébastien, pardon de vous contrarier. Nous sommes à la conclusion de nos 28 épisodes
voilà.
Sur demeures et familles. Je me trompe ?
Oh, je crois qu'on n'est pas très loin du nombre de chroniques.
La grande saga de la saison.
Voilà, et qu'on termine en montant sur la tour capitulaire, hein, au sens figuré bien sûr, pour faire un peu un tour d'horizon sur ce qu'apporte, ce que l'on retient nous autres, hein, contemporains, de ce patrimoine légué par des familles. Donc à chaque émission, on en citait une ou plusieurs d'ailleurs. Et ces familles, pour la plupart, ne sont plus dans le paysage toulousain. Elles ne sont pas impliquées dans la vie sociale, économique, politique ou autre. Peut-être mondaine, mais ça, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. En revanche, elles ont attaché leur nom à un certain nombre d'hôtels qui, ces hôtels, avec le nom de, je prends l'exemple.
Qui ont gardé le nom.
Mais oui, l'hôtel de Bernuy, pour ne citer
que le
premier que nous avions étudié, absolument. Eux sont accessibles sur, j'allais dire, l'ensemble de la planète via Internet et tous les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je dirais le premier héritage de ces familles. Nous allons faire un bilan un petit peu, enfin un bilan est un bien grand mot, mais en tout cas un survol des thèmes que nous avions abordés. Eh bien cet héritage, il est d'abord sur le plan du tourisme et sur le plan de la qualité de vie, je dirais, en tout cas dans le centre-ville.
Oui, et la beauté de
voilà,
la ville,
ce qui
sa personnalité
et,
aussi.
Et qui, je pense, qui est un sujet transversal, qui ne fait pas débat.
Qui avait permis d'émettre l'hypothèse d'une candidature au patrimoine mondial,
oui,
justement à cause de ces hôtels particuliers, de cet héritage.
Je ne sais pas où ça en est d'ailleurs, ce dossier-là.
Non, elle a été, je crois que...
refusée.
Voilà. Oui. Il y a eu d'autres pistes depuis.
Oui, voilà. Le canal a tout pris,
donc,
après toute la lumière.
Donc une sur le patrimoine immatériel de
voilà.
l'UNESCO.
Voilà.
Exactement.
D'accord. Mais enfin, c'est pour dire que Toulouse, par rapport à... Allez, ses concurrentes ou ses voisines, ses grandes voisines, Bordeaux, Montpellier, Lyon, seconde cité que ces villes, peut s'enorgueillir d'avoir une collection d'hôtels particuliers, privés, hein, même si c'est aujourd'hui la plupart du temps des copropriétés, mais qui sont dignes justement de retenir l'attention de
oui, et puis
ces
vous parlez de Bordeaux, à Toulouse, on a une particularité, c'est vraiment un essaimage. Dans
vous voulez dire dans les plusieurs
dans
quartiers
territoire. Ah, on n'a pas de front de grande architecture
oui.
frontale.
Dans les quais de Chartron, si on est à Bordeaux.
Voilà. Et à Toulouse, on a vraiment des unités qui viennent animer l'urbanisme toulousain. Mais c'est très différent, c'est particulier.
Alors,
à Toulouse.
Cette différence est complétée par une autre différence qui est celle justement des demeures de campagne. Parce qu'on l'a dit régulièrement, la plupart de ces familles avaient les moyens, et en tout cas ça fait partie de leur statut, leur rang social, d'avoir une maison de campagne et dans certains cas un vrai château. C'était un château avec des tours et ponts-levis, même si au cours du temps ces éléments avaient disparu pour céder la place à quelque chose de plus moderne. Eh bien, ce patrimoine château, pour faire court, est beaucoup plus diffus autour de Toulouse qu'il ne peut l'être autour des autres grandes villes. Je pense aux Folies, par exemple, de Montpellier, qui ont un prestige, elles appartiennent soit au conseil des, une collectivité, soit à des particuliers. Il y a même le grand stade, je crois, aidez-moi pour le nom du stade de Montpellier, qui est la Mogère. Non, ce n'est pas la Mogère, c'est le grand...
Le stade de la Mosson.
La Mosson, ça commence par M, merci beaucoup. Et qui est une splendide propriété de parlementaire du XVIIIe siècle. Il ne reste très, très peu de choses, mais une notoriété.
Montpellier n'avait pas le Parlement. Montpellier avait la Cour des aides, compte et finances.
Tu as raison. On les englobe dans les parlementaires. Puisque c'était
et l'intendant.
Une administration judiciaire, oui. Tout de même.
Enfin, et le chef magistrats. De l'administration royale, qui était l'intendant de police.
Le subdélégué à Toulouse, voilà, de ce monsieur.
Et donc, les constructeurs, qui sont-ils? On va le rappeler, parce que ce sont des origines qui sont... patricienne, on va dire. Hein. Mais
oui,
bon,
alors, peu avec des quand vous dites constructeur, c'est les commanditaires, les maîtres d'ouvrage, on dirait aujourd'hui, sûr, ceux qui commandent, qui passent commande et qui ont les moyens de financer leur ouvrage. Alors, ils sont de deux ordres, finalement, dans le temps, puisqu'on construit à Toulouse ce type d'hôtel particulier et ou de château, de maison de campagne, si vous voulez, avec une exploitation rurale, entre le XVIe siècle et le XIXe siècle inclus. Aujourd'hui, on ne viendrait à l'esprit de personne, je crois, de voilà, lancer une telle aventure, ou alors vraiment un défi. On rénove plutôt, on restaure. Bien. Donc pendant ces trois siècles et demi, mettons, ce sont des familles qui ont deux origines. Soit ce sont des familles de toute noblesse, mais elles sont très très peu nombreuses, soit elles viennent d'un vivier extraordinaire, bouillonnant. Alors dès qu'on pouvait, on le faisait à chaque émission, qui rassemblait soit des marchands, soit des nouveaux venus, des financiers, des receveurs du taillon, des gens de l'administration fiscale de l'époque, souvent associés à l'Église, hein, qui recevaient l'impôt. Et avec l'argent accumulé, les marchands de pastels, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr.
Et où ces produits de la charge de collecte de l'impôt, ils se sont présentés à l'acquisition de biens fonciers, soit pour rentrer dans la peau des anciennes personnes, des anciens propriétaires, soit pour eux-mêmes devenir leur égaux. Si vous voulez. C'est soit on les chasse et on prend leur place, soit on fait le même parcours que les gens.
Alors, c'est essentiellement le Parlement. C'était nobiliaire.
Mais oui, voilà. Dans tous les signes de noblesse, il fallait la maison de ville, l'hôtel, et la seigneurie.
Et il y avait un adage qui disait que nul seigneur sans terre. Donc on achetait une charge qui permettait l'acquisition de noblesse, il fallait derrière une terre, ce qui marquait l'assise foncière de la famille, la puissance. Voilà. Puis n'oublions pas que la terre était la principale source de revenus avant le démarrage de la révolution industrielle, la deuxième moitié du XVIIIe.
Oui, les revenus de la terre et puis la nourriture aussi, ce qui était bien commode pour l'amener jusque dans l'hôtel.
La connexion, elle est aussi vivrière, si je puis dire.
Et donc, gravitent autour de ces familles beaucoup, beaucoup de populations avec des activités en lien. Alors, soit des régisseurs, ces aristocrates ne vivent pas dans leur maison de campagne, leur château, mais délèguent la gestion des... Voilà. Et ça, c'est très bien étudié. Mais ce qui manque, c'est une synthèse, finalement, de toutes ces propriétés rurales autour de Toulouse. Il y a, à ma connaissance, 4 ou 5 ouvrages illustrés qui sont parus à la fin des années, enfin dans les années 90, à la fin du XXe siècle, et depuis plus rien.
On peut redonner un titre peut-être ?
À quoi donc ?
Un titre d'ouvrage.
Ah bah écoute, hors micro, on va essayer de réfléchir. Mais si parmi nos auditeurs, il y avait
il faut trouver chez des bons libraires de Toulouse, à mon avis.
Mais il y a de la matière, mais ça n'a pas été revisité depuis 25 ans au moins. Et je crois qu'il y a beaucoup de Toulousains, Toulousaines et de cœur ou d'adresse seraient à la fois surpris et intéressés de ce patrimoine.
Il y a peut-être une belle publication à faire à la clé, finalement.
Voilà. Et comme les Toulousains de Toulouse savent publier, on va y réfléchir.
Ah, Michel, des articles dans l'OTA seraient les bienvenus sur ce thème.
Allez, voilà, je relève le défi.
Je vous tends une perche.
Alors, il y a une chose amusante à faire, c'est de partir sur les lieux où était censé se trouver une de ces grandes propriétaires et les châteaux, et de voir ce que le lieu est devenu.
Et oui, parce que, à ma connaissance toujours, mais c'est perfectible bien sûr, je dirais 3/4 pour donner une idée de proportion, de ces demeures et châteaux au sens large, n'ont plus de lien avec la famille d'origine, ni celles qui les ont suivies, hein, y compris les familles bourgeoises et qui ont pris la suite, et agricoles. Aujourd'hui, c'est essentiellement maison d'hôtes, avec spa si on peut, si on a envie. Et c'est ça qu'on voit en ligne quand on tape Château Toulouse. Vraiment, c'est un autre usage.
Et est-ce qu'on a une idée, en vous écoutant pendant toutes ces émissions, je me posais la question de savoir quelle était un petit peu la fréquence des changements de propriété. Est-ce qu'il y a des biens qui sont restés dans une famille très longtemps ?
C'est la vraiment grande minorité. Vous avez raison, ah oui. Aline, on le disait dès qu'on pouvait. On pense à certains noms de famille. Alors peut-être on peut en citer au moins deux, oui, peut-être, oui. Qui portent le nom encore de la propriété. C'est la famille de Pibrac, en fait Dufort de Pibrac, qui l'auteur de la lignée au XVIe siècle, devient seigneur de Pibrac et par descendance, eh bien aujourd'hui, c'est toujours la même famille qui occupe le château et le parc. Voilà. Et puis vous avez la famille de Villèle, qui a un nom qui sonne à Toulouse, qui est quand même connu, et qui a une propriété toujours, là, les descendants du ministre, mais avant lui, ses auteurs, remontent au moins au XVIe, XVIIe siècle, sur la commune, je crois, de Mourville-Basse.
Château de Mourville-Basse, sur la commune. Donc c'est tout à fait exceptionnel.
Voilà. Et c'est très rare, c'est vraiment, oui. On les compte sur les doigts des deux mains.
Eh bien, pour évoquer ce petit monde-là, et pour conclure peut-être, ça m'évoque... une lecture récente, un roman des années 50 de Michel de Saint-Pierre, Les Aristocrates, adapté au cinéma avec Pierre Fresnay. Voilà, une évocation de ce monde des châteaux, de l'attachement du châtelain à sa famille et puis à ses serviteurs. Et voilà, à la fois une économie, une culture et comment dirais-je, une sorte d'attitude humaine, une humanité voilà, particulière. Voilà, il y a d'autres films. On va rester là-dessus, je crois, pour Demeures et Familles.